Voilà. Bonjour, bonjour à toutes celles et ceux qui nous écoutent. Radio Galère, émission du 18 juin 2025. Aujourd'hui, comme dans toutes les émissions donc, de l'article 25, qui est le 25e article de la Déclaration des droits de l'homme, nous resterons donc dans le social. C'est une émission purement sociale et non pas politique. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons voir les politiques de lutte contre les exclusions dans les discours publics. Et là, il y a de quoi faire. On verra bien un peu après ce qui, au niveau un peu de politique éventuellement. On verra bien. Voilà. Les mouvements sociaux. Je parlerai un peu de Gaza et de la Palestine et aussi de Georges Ibrahim Abdallah qui est toujours emprisonné donc là-haut à la maison. Voilà. Et je lance l'émission. Les politiques de lutte contre les exclusions dans le discours public, et croyez-moi qu'il y en a, ont été publiées le 19 octobre 2023, donc il y a 2 ans. Hein, voilà. Bon, par la rédaction mission. Alors en 2020, plus de 9 millions de personnes dans l'Hexagone sont pauvres. 14,4%. Voilà. C'est déjà pas mal. Hein, de la population constate l'Institut national de la statistique et des études économiques. Bon, c'est l'INSEE, hein, voilà. Et c'est une maison sérieuse, hein, on ne peut pas dire le contraire. Hein. Bon. La journée internationale pour l'élimination de la pauvreté du 17 octobre donc, est l'occasion pour Vie publique, FR.fr, de proposer une sélection de ses cours de discours public sur le sujet. Eh oui. Alors, en 1970, après les chocs pétroliers qui ont fait beaucoup de dégâts, de nouvelles formes de précarité apparaissent. Que le système de protection sociale mis en place en 1945 ne parvient pas à juguler, bien sûr. L'installation d'un chômage de masse fait naître des situations inédites de pauvreté, marque la fin de la croissance économique de la période des 30 Glorieuses. Ah, les 30 Glorieuses, quelle belle chose. Alors, les journées d'octobre, du 17 octobre 1987, à l'appel du père Joseph Wyszynski, qui était fondateur d'ATD Carmonde, des défenseurs des droits de l'homme et des personnes en situation donc, de pauvreté, bien sûr, se sont rassemblés sur la place du Trocadéro à Paris pour honorer notamment les victimes de la pauvreté. Ils ont lu une déclaration affirmant que la pauvreté n'est pas seulement un problème économique, mais aussi un problème de violation des droits de l'homme. Voilà. En lien avec cette date, le 17 octobre de chaque année, se tient la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté. Voilà, alors là, il y a eu des déclarations de personnalités politiques, déclarations de M. Jacques Chirac le 17 octobre 1995, message de M. Lionel Jospin le 17 octobre 1997, message de M. Jacques Chirac en 2003, le 17 octobre toujours, message de Jacques Chirac le 17 octobre également, mais là c'était en 2005, déclaration de Nicolas Sarkozy, 17 octobre 2007, voilà. Déclaration de Madame Christine Boutin, voilà, le 17 octobre 2008. Message de Monsieur François Hollande, hein, le 10 octobre 2012. Déclaration de Madame Marisol Touraine, le 17 octobre 2013, voilà. Tout ça, c'est une panoplie, donc, d'hommes politiques, quoi. Voilà. Bon, allez, hop, on passe. Alors, des années 70 aux années 90, voilà une bonne chose, hein. Une nouvelle pauvreté arrive. Les années 1970 et à 1990 ont vu naître une multitude d'initiatives publiques et privées de mesures et pleines d'urgence pour lutter contre la nouvelle pauvreté. La Banque alimentaire en 1984. Les Restos du Cœur créés par Coluche, notre regretté Coluche qui est décédé malheureusement dans des conditions un peu obscures, hein, créés par Coluche en 1985. Le minimum d'insertion, le RMI, bon, le RMI n'existe plus maintenant, hein, en 1988, avec le Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et oui, le droit au logement avec la loi Besson en 1990, le SAMU social en 1993. Bon, cette période-là est marquée par une recrudescence de la pauvreté, bien sûr, errante et l'apparition. Bon, beaucoup de gens qui traînent dans la rue, malheureusement, hein. D'une nouvelle catégorie de pauvres, les sans domicile fixe, ce qu'on appelle les SDF. Voilà. Donc, ils dorment un peu où ils veulent, ils mangent un peu ce qu'ils peuvent, ils s'habillent comme ils peuvent. Voilà. C'est malheureusement la société qui fait ça. Quoi. Voilà. Donc il s'agit de lutter pour des droits les plus élémentaires, celui de se loger. Et là, vous allez voir que ce n'est pas gagné. Alors, déclaration de M. François Mitterrand sur les mesures à prendre en faveur des sans-abri le 14 janvier de 1987. M. François Mitterrand. Extrait d'une déclaration de M. Michel Rocard. Ah, M. Michel Rocard, quel bel homme. Sur les inégalités sociales, le RMI et la situation du logement en Île-de-France. On va chercher loin, vous voyez. Conseil des ministres du 13 décembre 1989. Bilan du revenu minimum d'insertion après un an. Bon, déclaration de Mme Simone Veil, salut la Veil, sur l'insertion des plus démunis sur le plan pauvreté et précarité pour l'hiver 93-94, le 17 octobre et 3 novembre 1993. Bon, devant l'ampleur de la crise dite économique, entre parenthèses, le constat est unanime. La pauvreté augmente en France et tend à s'installer périodiquement et durablement aussi. La notion de politique de lutte contre l'exclusion apparaît à cette période-là. Bon, bien sûr, la loi d'orientation sur la lutte contre l'exclusion du 29 juillet 1998, des actions collectives expriment la détresse des chômeurs et se sont multipliées à l'occasion des fêtes fin d'année en 1997. Monsieur Lionel Jospin, ah, monsieur Jospin, premier ministre, il a été ministre quand même. À cette période, il décide de répondre à cette urgence sociale et reçoit l'ensemble des organisations syndicales. Bon, alors, CGT, CFDT, FO, CFTC, enfin bref, toute la panoplie, quoi. Et ainsi que les associations de chômeurs, bon, qui existent toujours, c'est vrai, mais que malheureusement, on ne voit pas très souvent. Il décide le 9 janvier 1998 de créer un fonds d'urgence sociale. Alors, déclaration de M. Jospin, le 9 février 1998. Rapport chômage, mesures d'urgence, minima sociaux, problèmes soulevés par les mouvements de chômeurs en France fin 1997, début 1998, rapport au Premier ministre. Le Premier ministre a reçu le rapport. Ce qu'il en a fait, ça c'est autre chose. Le 4 mars 1998, Martine Aubry, ministre de l'Emploi et de la Solidarité, tiens. Présente en Conseil des ministres, le programme de prévention et de lutte contre les exclusions. Conseil des ministres du 4 mars 1998, programme de lutte contre les exclusions, interview et communiqué de Mme Martine Aubry dans La Croix et à France Inter, La Croix c'est un journal, hein. France Inter et Europe 1, c'est une radio. Le 4 mars 1998, interviewé à Europe 1, le 6. Bon, déclaration de Mme Martine Aubry, le 25 mars 1998. Bon, voilà, bon. D'un budget de plusieurs dizaines de milliards de francs, hein. À l'époque c'était le franc, mais d'abord maintenant c'est l'euro, qui s'étale sur 3 ans et fait l'objet d'un projet de loi d'orientation qui aboutit à la loi d'orientation relative à la lutte contre les exclusions. On lutte contre les exclusions, enfin on essaye quoi. On essaye ou on n'essaye pas. Promulguer les 29 juillet 1998, ce dispositif témoigne de la progression de la lutte contre la pauvreté, bien sûr, vers une logique d'accès aux droits, droit à l'emploi, au logement, à la santé, à la citoyenneté. Soyons citoyens, votons. Présenté en mars 1999, un projet de loi prévoit de créer aussi une couverture maladie universelle, la CMU. Bon, bien sûr, il y a eu les années 2000. 2000, pacte de solidarité de 2023, quoi, voilà. La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale met en place un plan de cohésion sociale visant à agir sur l'emploi, logement, l'égalité des chances. Bon, agir sur l'emploi, il y a toujours autant de chômeurs, hein. Logement, l'égalité des chances. Bon, voilà. Alors, il y a eu aussi l'interview de M. Jean-Louis Borloo. Ah, M. Jean-Louis Borloo. Quel homme. Le 20 juillet 2005, déclaration de M. Dominique de Villepin. Avec la progression de la pauvreté qui augmente, de nouvelles prestations sont créées pour compléter le système général, bon, faisant évoluer la protection sociale, vers une approche des risques sociaux en termes individuels. Voilà, bon. Le 10 et 11 décembre 2012, le gouvernement a réuni une conférence nationale sur la lutte contre la pauvreté. Et pour l'inclusion, le Premier ministre présente les grandes lignes d'un pacte de solidarité qui devrait s'élever à 2 milliards d'euros et servir de base à un plan quinquennal, 5 ans. Discours de M. Jean-Marc Ayrault, le 11 décembre 2012, M. Jean-Marc Ayrault, voilà, bon, bon, il est comme il est. Hein. Le 21 juillet 2003, le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale est adopté. Il est la feuille de route du quinquennat Hollande en matière de politique et de solidarité, communiqué des services de, du Premier ministre en date du 21 janvier 2013. Hein. Déclaration de M. François Hollande, voilà. Voilà, qui est M. François Hollande qui a été président de la République. Hein, la République. Hein. Voilà. C'était bien la République, il n'y a pas d'erreur là-dessus. En 2017, la France hexagonale comptait, selon l'Institut national de la statistique et des études économiques, hein, INSEE, 8,9 millions de personnes en situation de pauvreté. Bon, là, à mon avis, nous sommes bien en dessous de la vérité. Hein. Bon. Pauvreté de monétaire, bien sûr. C'est dans ce contexte qu'une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la pauvreté est représentée le 3 septembre 2018 par le président de la République. Voilà. Bon, déclaration de M. Emmanuel Macron, déclaration de M. Olivier Véran, M. Emmanuel Macron le 3 septembre 2018, M. Olivier Véran le 12 janvier 2021, M. Emmanuel Macron toujours le 6 janvier 2022, déclaration de Jean-Christophe Combes, tiens, je ne connais pas, le 29 septembre 2022. Bon, déclaration de Mme Elisabeth Borne, bon, celle-ci, voilà, c'est Mme Borne. Sur la présentation du pacte des solidarités aux fédérations et associations de lutte contre la pauvreté le 18 septembre 2023. Voyez-vous, il y a vraiment de quoi faire dans ce domaine-là. Voilà, et je resterai là pour cette petite explication. Je vais demander à la régie de mettre un peu de musique et je reprends l'émission d'ici quelques minutes.
Je voulais t'aimer toute la saison, ton cœur m'a dit merci, c'est non. Au milieu des flammes, j'ai encore perdu la raison. On me reconnaît dehors, on me reconnaît plus à la maison. Pourquoi mon cœur est vide quand le tien n'a plus de raison? Faut 1 million pour changer d'air, faut 8-0. Je vais dormir face à la mer comme Calogero. Faut 1 million pour changer d'air, faut 8-0. Je vais dormir face à la mer comme Calogero.
Faut 1 million pour changer d'air, faut voyager pour changer d'heure. Un fer pour quand j'ai peur, un frère solide qui éponge mes pleurs. Y'a des flammes dans les yeux du diable et des vagues d'amour dans le bleu des tiens. Mais un jour tu m'as déserté, y'avait plus que du noir dans le fond des miens. Et l'après-midi je m'entraînais à dribbler, le soir je m'entraînais à rimer. J'ai vu des frères s'éteindre dans la fumée car les problèmes sont trop vite arrivés. C'est jeune qu'on s'est mis à trimer et la lumière faut la réanimer. Ce soir je m'éteins dans la fumée car les problèmes sont trop vite arrivés. Quand en bande plein je fais le tour de la ville, je me sens bien mais pour combien de temps? Une saison, quatre saisons, ça va vite. Tu seras là, mais
je voulais t'aimer toute la saison. Ton cœur m'a dit merci, c'est non. Au milieu des flammes, j'ai encore perdu la raison. On me reconnaît dehors, on me reconnaît plus à la maison. Pourquoi mon cœur est vide quand le tien a plus de raison? Faut 1 million pour changer d'air, faut 8-0. Je vais dormir face à la mer comme Calogero. Faut 1 million pour changer d'air, faut 8-0. Je vais dormir face à la mer comme Calogero. 104 saisons que je suis sur terre et je fais toujours les mêmes erreurs. En hiver, je me sens bloqué dans l'ascenseur. Quand tu me dis je t'aime, moi j'entends toujours ça va pas. Y'a mon cœur qui freine sans que je sache vraiment pourquoi. J'essaye de mener une vie saine et pourtant je me sens hyper seule. Amour sous les pixels, insaisissable comme une vixaine. Regarde-moi dans les yeux, tu verras qu'il fait pas si noir. Regarde-moi dans les deux pour réinventer des histoires ensemble.
Quand en banque, là je fais le tour de la ville. Je me sens bien, mais pour combien de temps? Une saison, quatre saisons, ça va vite. Tu seras là, mais
je voulais t'aimer toute la saison. Ton cœur m'a dit merci, c'est non. Au milieu des flammes, j'ai encore perdu la raison. On me reconnaît dehors, on me reconnaît plus à la maison. Pourquoi mon cœur est vide quand le tien n'a plus de raison? Faut 1 million pour changer d'air, faut 8-0. Je vais dormir face à la mer comme Calogero. Faut 1 million pour changer d'air, faut 8-0. Je vais dormir face à la mer comme Calogero.
C'est dégoûtant, j'ai rêvé du trône, je partirai pas sans le faire. J'ai tes pensées toutes métales au soleil, ça fait comme un beau coucher d'oseille. Pourtant la m'avait prévenu qu'il fallait doser. Pas d'école, fallait poser. Dans la rue, fallait bosser. Tu crois que ton rappeur est un bête d'humain? Tu connais pas les dossiers. Enculé, tu veux négocier, mais t'as parlé lové pour me tenir tête. Si t'écoutes l'extrême droite, mon enfant, tu vas finir par devenir bête. Je pensais pas devenir connu, je pensais pas vendre des quêtes. Quand j'ai l'impression de vivre, bah y'a la mort qui me guette. Une fois une autre mort piquée, que je puisse donner l'heure à ma story privée. Ils m'ont dit t'as fait de la merde, comme s'ils m'avaient briefé. Je ressens le dos griffé, de l'hôtel à bas prix. Est-ce qu'ils ont vraiment tout donné? Est-ce qu'on a vraiment tout pris? Est-ce qu'on a vraiment tout donné sur le terrain pour emporter la coupe? Est-ce qu'on l'a pas fait à fond? Est-ce qu'on va garder des doutes? Je me sens comme le mec en haut du pont, y'en a presque plus rien à foutre. Écoute le projet c'est chaud, y'a tout ce que tu veux comme dans un four. Baby monte dans mon fer, fer, d'un coup t'as des papilles.
Voilà, je reprends le cours de l'émission, il est 2h, 2h moins 10, je rentre à l'antenne à 14h30, 14h25. Bien, après donc ces explications sur, sur tout ce qui a été dit avec tous ces hommes politiques, etc. Une très bonne émission sur, sur Palestine, c'est Une heure en Palestine. Alors je ne sais pas par qui elle est faite, mais c'est une très très bonne émission que je vous invite donc à écouter si toutefois cette émission existe encore. Et là, je n'ai pas sous la main le moment où cela passe donc à l'antenne, je ne sais pas. Bien, Gaza. Alors, Palestine-Gaza, Gaza-Palestine, c'est mitoyen. Gaza, la crise atteint un niveau de désespoir sans précédent. Bon, c'est l'ONU qui a alerté. 9 juillet 2025, donc c'est pas si vieux que ça, aide humanitaire, voilà. L'ONU a prévenu lundi que la crise humanitaire à Gaza a atteint un niveau de désespoir sans précédent. La population continue de souffrir de faim. Et pas seulement de la faim, croyez-moi. Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, de nombreux habitants de Gaza sont contraints de risquer leur vie pour trouver de la nourriture et de plus en plus d'informations font état de personnes tuées et blessées à proximité des sites de distribution, non gérés par l'ONU. Voilà. Le Comité international de la Croix-Rouge, qui est le CICR, a indiqué que 29 blessés sont arrivés à l'hôpital de campagne du CIR. À Rafah, à l'ouest, dont 8 sont décédés. Presque tous souffraient de traumatismes dus à des explosions et deux autres ont été admis avec des blessures par balle. Bon, l'ONU affirme que les civils doivent toujours être protégés. Personne ne sait, personne ou qui soit ne devrait être content de choisir entre risquer sa vie et nourrir sa famille. Bon, a dit le porte-parole du secrétaire général Farhan Haq lors d'un point de presse à New York. Bon, quoique New York s'en fiche un peu, hein. Stock de carburant très bas. Il a ajouté que les stocks de carburant à Gaza sont extrêmement bas. Bon, ce qui accentue la pression sur les services essentiels et les opérations humanitaires. Pour acheminer des opérations humanitaires, il faut des camions, donc il faut du carburant. Voilà. Au cours du week-end, quelques 260 000 litres de carburant ont été pillés dans le nord de Gaza. Auparavant, l'ONU avait tenté à plusieurs reprises d'accéder à ces stocks pour les récupérer, mais ces tentatives avaient été refusées par les autorités israéliennes. Voilà. A ajouté M. Haq, ajoutant que depuis le 15 mars, les missions de récupération de carburant ont été refusées à 14 reprises par les autorités israéliennes. Donc ce carburant-là a été confisqué et sert à autre chose. Bon, les tentatives d'approvisionnement en carburant à Rafah au sud de Gaza continuent également d'être refusées. L'ONU prévient que si aucune solution n'est trouvée dans les prochains jours, donc ce mois-ci, l'ensemble de l'opération d'aide pourrait être paralysée, a-t-il dit. Bah, cheminer l'aide humanitaire, oui, mais toujours pareil, il faut que ça s'appelle, il faut des moyens, il faut des camions, il faut soit des camions, soit par les airs, enfin, par la route ou autre. Bon, pas par chemin de fer, parce qu'il n'y a pas de chemin de fer là-bas, mais au moins par la route, quoi. Il faut sécuriser ces convois en plus. Hein. Et depuis que les autorités israéliennes ont autorisé l'entrée d'une quantité limitée d'aide à Gaza, le 19 mai, l'ONU, et ses partenaires n'ont pu collecter qu'environ 4600 tonnes de farine. C'est un grain de blé dans un océan, quoi. Farine de blé, bien sûr, au point de passage de Kerem Shalom. La majeure partie de cette aide a été confisquée par des personnes désespérées, bien sûr. Voilà. Et cela, malheureusement, devait arriver, désespérés et affamés. Les convois ont été pris d'assaut, hein, avant même qu'elles n'atteignent sa destination. Dans certains cas, les fournitures ont été pillées par des bandes armées. Alors là, croyez-moi que ce n'est pas ce qui manque. Bon, nous réaffirmons qu'Israël, en tant que puissance occupante, est responsable du maintien de l'ordre public et de la sécurité donc, à Gaza. Ouais. Cela devrait inclure l'émission d'un nombre bien plus important que de fournitures essentielles, hein, par de multiples points de passage itinéraires afin de répondre aux besoins humanitaires et de contribuer à réduire les pillages, etc., 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 a dit le porte-parole adjoint du secrétaire général. Voilà. Bon, des partenaires travaillant sur la sécurité alimentaire à Gaza estiment qu'entre 8 000 et 10 000 tonnes de farine de blé sont nécessaires pour acheminer au moins un seul sac de farine à toute une famille. Toute une famille doit vivre avec un sac de farine de la bande de Gaza afin d'alléger la pression sur les marchés et de réduire le désespoir. En plus d'autres approvisionnements humanitaires diversifiés, a-t-il ajouté, par l'acheminement continu et sans restriction de l'aide humanitaire vers Gaza, doit reprendre plus vite. Voilà. Bon, les autorités israéliennes ont informé que le point de passage resterait fermé vendredi et samedi. Nous continuons donc également de faire face à des obstacles majeurs qui entravent notre capacité à mener cette opération. Parmi ces obstacles figurent des itinéraires dangereux, une grave pénurie de chauffeurs agréés et des retards à nos équipes, devant attendre souvent des heures, la suspension des activités militaires, a-t-il dit, quoi. Voilà, donc l'ONU dirige une mission visant à acheminer vers la ville de Gaza des fournitures entrées. Cette mission est toujours en cours, donc pas d'informations supplémentaires à communiquer, etc. etc. Pendant ce temps, en Cisjordanie, les opérations des forces israéliennes dans le nord se sont poursuivies. La semaine dernière, détruisant des routes et perturbant l'accès des Palestiniens aux services essentiels. Bon, l'ONU et ses partenaires humanitaires poursuivent leur intervention, notamment en fournissant assistance en matière d'eau, d'assainissement, d'hygiène, de médicaments, et bref, tout ce qui est nécessaire donc, à la vie des familles. Voilà. Voilà. Et à des dizaines de milliers de Palestiniens, malheureusement, déplacés dans le nord de la Cisjordanie. Voilà, donc, activité militaire au Liban, voilà. Bon. Activité militaire du Liban, s'agissant du Liban, le bureau de coordination des affaires humanitaires, OCHA, a déclaré lundi rester gravement préoccupé par l'impact humanitaire des activités militaires en cours sur les civils, notamment la suite des frappes aériennes et israéliennes sur la banlieue de Beyrouth, jeudi dernier, juste avant la fin. Voilà. Et je resterai là pour ces explications. Donc, En définitive, l'aide humanitaire arrive très très difficilement donc aux Palestiniens donc de la bande de Gaza. Voilà. Je vais demander à la régie de mettre un peu de musique et je reprends l'émission d'ici quelques minutes.
C'est dégoûtant, j'ai rêvé du trône. je partirai pas sans le faire. Je parlerai bien sur le dernier.
J'ai rêvé du trône.
C'est une façon de plaire.
C'est dégoûtant.
Aïe aïe aïe. Du son de la boucherie, c'est halal. La vie, c'est une pute en carnaval. Jour de carnaval.
Aïe aïe aïe.
Deux boules vanille et un split banana. De la cime au-dessus, va là là. Wesh. Kamehameha. Donne la quicheta que j'taille au Bahamas. J'ferai des love, mes dièses et blablabla. Bla, bla.
Bla, bla, bla.
Salade de fruits et surtout la nana. Dans la brechant, on traîne en pyjama. Apesanteur, on baise, on se nasa. Et j'tire la langue au chat. J'vais pas dans le détail, ouais. J'fais ma vendetta. Un jour je m'absente, et puis un jour tu t'en vas. C'est comme ça, c'est comme ça. Aïe aïe aïe. T'as voulu tester, puis c'est la cata. Gérald Darmanin. Non lien, non lien, non lien, gna gna gna. J'parle à mon père, j'le porte comme un papa. Quand je vois la mer, je me dis que je veux là-bas. À quoi ça sert une vie jointe les deux bouts? Avec le succès, je prends.
Voilà. Je reprends le cours de l'émission. Il est 14h02. Encore une petite demi-heure d'antenne. Voilà. Bien. Georges Ibrahim Abdallah. Pourquoi Georges Ibrahim Abdallah est emprisonné depuis maintenant plus de 40 ans? Eh bien, ce que nous allons voir. Alors, comment expliquer les maintiens en détention du militant libano-pro-palestinien, hein, Georges Ibrahim Abdallah, condamné pour complicité d'assassinat, ça n'a pas été prouvé, en mai 1984 de diplomates américains et israéliens, en France, emprisonné depuis 41 ans, il est libérable depuis 26 ans, et il est toujours emprisonné dans sa petite cellule de 2m20 sur 2m50 sur une toute petite cellule, voilà. Il est libérable depuis 26 ans. La prochaine décision de justice doit avoir lieu, donc ce juin, ce mois-ci, donc demain. Voilà. Demain, nous en saurons un peu plus. La justice française reçoit-elle des pressions pour ne pas libérer Georges Abdallah, incarcéré depuis plus de 4 décennies maintenant dans le sud-ouest de la France? Le militant libanais a été condamné en 1987 à la réclusion à perpétuité pour complicité d'assassinat. Voilà. En 1982, de deux diplomates, l'attaché militaire, donc adjoint Charles Rey, et le deuxième secrétaire de l'ambassade israélienne, Yaakov Barzimantov, Georges Abdallah est libérable depuis 25 ans. Mais toutes les demandes de libération ont échoué. Bon, dernier événement en date de la Cour d'appel de Paris, avait reporté le 20 février sa décision sur la libération de Georges Abdallah, ajournant au 19 juin l'examen de la demande de la libération conventionnelle. Et voilà, et donc voilà, nous en sommes, nous allons donc voir. Voilà. Bon, la Chambre d'application des peines, bien sûr, avait jugé nécessaire qu'il s'acquitte à raison de ses facultés contributives des dommages et intérêts. Georges Abdallah a toujours dit que jamais il n'indemnisera les États-Unis qui envoient des bombes sur les enfants palestiniens et libanais. Mais il avait dit que si l'État libanais payait, il accepterait alors son avocat, Maître Chalanzé, déclarant en février s'il a encore une fois cédé aux États-Unis. Bon, les États-Unis se sont permis d'agir dans la souveraineté française, de donner des ordres à la France, voilà, et de donner des leçons, et au pouvoir politique français. Voilà. Analyse M. Abi Sab, qui est journaliste libanais également. Fin connaisseur du dossier, c'est une vision impérialiste du monde. C'est une revanche d'une vindicte jusqu'au bout, et Georges Abdallah qui paye pour tous les peuples qui se sont rebellés, qui se rebelleront encore contre les États-Unis et sa politique, son hégémonie dans notre région, dans le monde. France, un tribunal ordonne la libération des militants pro-palestiniens de Georges Ibrahim Abdallah. Après 40 ans de détention, il est toujours emprisonné. Alors, les Américains, les Américains, depuis le début de cette affaire, vieille de 40 ans, la défense de George Abdallah voit la main de Washington dans son maintien en détention. C'est-à-dire que les Américains ne veulent absolument pas qu'on le libère, alors qu'il est sur le territoire français. Voilà. À mon arrivée à l'ambassade de Paris, au début de l'été 87, en tant qu'officier antiterroriste au sein de la section politique, l'affaire Abdallah est devenue ma priorité. Donc, si je fais pas erreur, c'est son défenseur. Voilà. Donc, voilà où nous en sommes. Bon, la liste des pressions exercées par Washington dans cette affaire judiciaire s'accroît du temps. Les États-Unis estiment depuis toujours que le militant libanais représente une menace pour eux. Bon, je ne vois vraiment pas quelle menace il peut représenter pour eux. Hein. Quand même, aujourd'hui, il a quand même 74 ans. Bon, la France veut se débarrasser de ces quatre embarrassants, témoigne M. Pierre Abissab, qui est son défenseur, son avocat. Pourtant, tout n'est pas encore clair et je n'ai pas l'impression que la France soit décidée. Il y a de l'intimidation à l'ingérence dans la politique française et de toute manière, l'État français ne devrait pas avoir son mot à dire. C'est la justice qui décide. Depuis 1999, Georges Abdallah est pris en otage contre la logique du droit. Et c'est un cas unique. Les États-Unis peuvent assassiner, fomenter des coups d'État indirects, indirects, au Chili ou au Venezuela, mais s'obstiner comme ça en tenant un otage, un militant, des personnes, on n'a jamais vu ça. Alors, il y a eu quand même son premier avocat, M. Jean-Paul Mazurier, qui a travaillé pour les services secrets français confiés à France Inter en 2024. Nous nous sommes courbés devant les États-Unis, qui se sont opposés à sa libération. Jacques Vergès, soit avocat de Georges Abdallah, puisqu'il en a eu plusieurs, avait parlé lors de l'une de ses plaidoiries de dictat américain, d'insupportable protecteur américain dans le dossier en question. Jacques Vergès parlait aussi de la France comme je ne dirais pas le mot parce que c'est un gros mot. Des documents déclassifiés montrent ainsi que 1986, Washington a exercé ses pressions sur Paris, mentionnant même que la faction armée révolutionnaire libanaise, la FARL, groupe auquel appartenait Georges Ibrahim Abdallah, pourrait s'attaquer aux intérêts américains. Voilà. En raison de leur implication dans l'affaire qui se déroule en France dans ce second document déclassifié, datant de 1987. Bon, alors quand même, Georges Abdallah a été condamné à la perpétuité pour complicité d'assassinat. Bon, ça a été dit. On peut lire des attaques contre des cibles américaines sont possibles, étant donné que les États-Unis ont joué un rôle majeur dans les pressions exercées, etc., etc., etc. Bon, les révélations fournies par WikiLeaks vont dans le même sens que les documents déclassifiés. Parmi les dizaines de demandes de libération conditionnelle, celle de 2013, les câbles révèlent un message envoyé par Hillary Clinton, alors secrétaire d'État, à Laurent Fabius, de Copain, ministre français des Affaires étrangères. Ah, les Affaires étrangères, quelle belle chose. Celle-ci demande ouvertement à Paris de trouver un moyen pour empêcher toute remise en liberté. Donc, en définitive, on veut le maintenir au placard. Voilà. Excusez-moi l'expression, je ne devrais pas dire au placard, mais voilà, en prison. Dans sa minuscule cellule. Voilà. Le ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, monsieur Valls, je ne sais pas si monsieur est valsé ou pas, ne signera pas, voilà, l'arrêté d'expulsion. Voilà. Bon, les responsables du bureau des affaires européennes à Washington, voilà, etc., etc., en 2013, se souvient, monsieur Steve Cashlet, qui était alors en poste au Mexique, alors que personne d'autre n'avait une connaissance personnelle de l'histoire des attentats, ni même de l'emprisonnement d'Abdallah. Ils ont dit que les autorités françaises avaient offert aux Américains l'opportunité d'exprimer un avis consultatif. Il fallait se consulter, puisqu'on avait été partie civile pendant le procès, pour cette raison que je ne pense pas que l'on puisse, par l'ingérence ou de pression. Si les Français eux-mêmes ont invité les Américains à donner leur avis, et si l'ancien officier antiterroriste américain d'insister en expliquant que les révélations de WikiLeaks ne sont qu'une partie infime du dialogue entre Paris et Washington, ce que vous avez vu dans les câbles, dans ces fameux câbles-là, c'est la réponse à la américaine à la demande française. Donc, en définitive, il n'est pas encore libéré. Et tout le monde souhaite qu'il soit libéré très rapidement et que sa libération soit acceptée. La réponse sera demain. Voilà. 14h09, un peu de musique et je reprends l'émission.
J'ai une question pour tous les homo sapiens. Mon papa m'appelait princesse, j'appelle le daddy mon prince. Est-ce que c'est de l'inceste? Ah, je les intéresse. Est-ce qu'ils savent que je suis pas terrestre? Bijoux noirs, diamants célestes, incrustés dans mon squelette. Ils aiment trop les paillettes. La vie d'artiste, en vrai, c'est la hesse. On investit pour que cela cesse. Quand on me l'assassine, c'est la fête. 808 craché par la window. Cache mon jeu tout comme une bimbo. J'ai l'héritage des griots. Tout niqué, je crois que c'est mon indo. Oui, je suis un peu toqué. En tout cas, j'ai mis tout de côté. J'aime bien la vie de rockstar. Plus jamais je remets le costard. Une heure, je fais la mala. Deux heures, je fais un malaise. Trois heures, faut que je me ramène. La dalle, je fais des ramens. Oh, l'ambiance. Mon prénom, c'est Briance. Il a dit on se fiance. Je pense d'abord aux finances. Ils misent tous sur AMOUR. Moi j'ai fui il y a longtemps. Je suis pas populaire. Y'aura pas de Valentin. J'ai scanné ton mec sur Yuka. Mauvaise qualité. Boss lady, c'est la direction. La mentalité. Ils parlent sur moi, c'est chaud comment. Je suis leur idole. Rassure-toi, je suis pas méchante. Je suis juste mignonne. Je suis sous l'eau, là faut que je m'isole. Au Four Seasons. Dans mes rêves, je suis saucissonné par season. Tous. Là je veux m'aérer, partir ailleurs. Bébé, je suis pas douce, non je suis aérienne. Je ferai ton malheur, mon grand souffle un coup. Ça se voit que t'es tendu. Tu t'insistes plus, je te laisse en vue. Le monde est bresson, moi je resplendis. Et je reste en vie. Oh l'ambiance, mon prénom c'est Briance.
Je me noie, je peux plus compter dessus. On se rappelle aussi qu'on s'est grave déçu. Je fais comme si dans mon cœur.
Voilà. 14h12, encore un quart d'heure, 20 minutes d'antenne. Bien. Maintenant, nous allons voir ce qu'il en est exactement des droits sociaux en France. Les droits sociaux en France sont un élément de clé du système de protection sociale, donc sécurité sociale et autres. Ils comprennent un large éventail de dispositifs et de mesures visant à garantir le bien-être et la sécurité donc, des citoyens, notamment en matière de santé, de retraite, d'emploi, de logement. C'est un exposé par le fait est, les principaux droits sociaux en France, leur évolution historique et leur importance dans la société dite contemporaine. Voilà, donc les droits sociaux en France représentent une dimension essentielle du modèle social du pays, visent principalement à garantir un minimum de bien-être à chaque citoyen, bien sûr, et résidant, couvrant des domaines tels que l'accès au logement, la santé, à l'éducation du travail. Les droits sociaux s'inscrivent dans le cadre d'une société plus équitable, offrant des protections et privilèges que fournissent un filet de sécurité pour les besoins fondamentaux, favorisant ainsi une meilleure cohésion sociale. Tout ça, c'est bien beau, mais il faut quand même savoir que beaucoup de gens n'ont aucun secours, aucune protection sociale, rien du tout. Donc voilà, ce sont des explications que l'on donne, mais c'est comme ça. Il y a beaucoup de gens nécessiteux qui n'ont plus de logement, qui n'ont plus rien, plus de famille. Ce sont des gens malheureusement qui finissent principalement dans la précarité complète. Et cela n'intéresse pas beaucoup, s'appelle, comment pourrais-je dire, devaillant ministre. En matière de droit au logement, le système français assure des protections pour les locataires. offrant donc une aide au logement par le biais de dispositifs tels que les APL, aide personnalisée au logement. De plus, le droit à l'hébergement, bien sûr, est garanti en période de crise sociale ou économique. L'objectif est de prévenir l'exclusion sociale. Voilà. Bon, l'exclusion sociale, je viens d'en parler. Voilà. Ce sont des personnes qui n'ont absolument rien. Voilà. Pas de logement, rien du tout. Ou alors de logement, ou alors des mensures. Voilà. Lié donc au manque d'habitations accessibles et abordables. Voilà. Bon, concernant le domaine de la santé, la France dispose d'un des systèmes de santé les plus développés. Ça, c'est vrai. Les plus développés au monde. La sécurité sociale prend en charge une grande partie des dépenses médicales, assurant aux citoyens un accès quasi gratuit aux soins essentiels. Bon, bien sûr, il y a les mutuelles au milieu. Parce que la sécurité sociale ne peut pas tout encaisser elle-même. Alors, la sécurité sociale, déficit ou pas? Non, il n'y a pas de déficit de la sécurité sociale. Il n'y a que des insuffisances de revenus. Voilà. Les dispositifs d'assistance publique soutiennent également les personnes les plus pauvres qui ne peuvent pas assumer les coûts liés aux traitements médicaux élevés. Bon, on en revient à ce que j'ai dit. Le droit à l'éducation est un autre pilier des droits sociaux. L'État garantit une éducation gratuite jusqu'à l'âge de 16 ans. Puis après, hop, il n'y a plus. Et pour mieux l'égalité des chances en soutenant un système éducatif qui favorise la réussite scolaire. Pour tous, indépendants de l'origine sociale. Voilà. Donc tout le monde a droit à la scolarité. Pour tous, indépendants d'origine sociale, que l'on soit blanc, jaune, noir ou autre. Voilà. Il faut du scolaire. Bon, dans le cadre du droit du travail, la France a mis en place divers dispositifs visant à protéger les travailleurs. Ceci inclut le salaire minimum, la réglementation des conditions de travail. Là, il y a beaucoup à faire, croyez-moi. Des contrats ainsi que des droits associés aux travailleurs dans les processus de décision au sein de l'entreprise. Bon, en ce qui concerne les contrats de travail, deux contrats de travail, le contrat de travail à durée déterminée de plusieurs mois plus après avoir monsieur, et les contrats à durée déterminée qui sont indéterminés, qui peuvent durer un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans. Etc., etc., etc. Voilà. Bon, ainsi que les droits associés aux travailleurs dans les processus de décision au sein de leur entreprise. Voilà, donc les syndicats. Les syndicats jouent également un rôle crucial dans la défense des droits du travail. Ça, c'est une bonne chose. Et l'amélioration des conditions de travail. Et les droits sociaux en France ont connu une évolution significative. Et oui, cela a commencé au 19e siècle avec la montée de l'industrialisation. À l'époque, c'était vraiment le début. Le travail était très dur, les accidents étaient nombreux. Les premières heures sociales voient le jour en réponse aux conditions de vie difficiles des ouvriers. Elles incluent la réduction du temps de travail, la régulation du travail des enfants. Et oui, les enfants y travaillaient. Bon, le 20e siècle marque une avancée importante avec la création de la sécurité sociale en 1945, Ambroise Croizat. On a souvent dit qu'Ambroise Croizat, c'était celui qui avait créé la sécurité sociale. Non, ce n'est pas lui qui a créé la sécurité sociale, mais il y a contribué. Voilà. Qui formalise le droit à la protection sociale pour tous les travailleurs. Cette période est également caractérisée par la mise en place des allocations familiales, du système de retraite après avoir travaillé, et qui renforce le filet de sécurité sociale nationale. Bon, dans les années après-guerre, les luttes sociales et syndicales aboutissent à des réformes majeures, notamment en matière de droits des salariés, conduisant à la création du Code du travail. Avant ça, le Code du travail n'existait pas. Ce Code régit les relations professionnelles définissant les droits et obligations tant des employeurs et des employés. C'est-à-dire que les employeurs ont des droits, les employés ont des droits. Voilà. Tous deux ont des droits. Contemporainement, les droits sociaux continuent de s'adapter aux évolutions donc, des sociétés modernes. Bien sûr, nous sommes dans une société moderne. Pas parfaite, mais moderne. Bon, des lois récentes prennent en compte de nouvelles réalités, ainsi que les questions liées à l'égalité des genres. Bon, que l'on soit gay, que ce soit homosexuel, que ce soit lesbien, enfin bref, chacun voit un peu ça à sa manière. voilà, au handicap et à la digitalisation du monde du travail afin de mieux répondre aux besoins de la population. Bon, et voilà, évolution des droits sociaux. Et bien voilà, les droits sociaux en France constituent un ensemble de protections et de garanties offertes aux citoyens, contribuant à la cohésion sociale et à la justice. Voilà. Ils incluent les droits de santé, à l'éducation, à l'emploi, voilà, ça, voilà. Bon, voilà. Bon, bien sûr, je pourrais continuer à reprendre l'historique des droits sociaux en France. Bon, mais tout a été dit pratiquement. Bon, l'évolution des droits sociaux, voilà. L'évolution en France s'est accélérée au cours du XXe siècle, marquée par des réformes majeures qui ont amélioré les conditions de vie et de travail donc, des citoyens. En 1936, le Front populaire a instauré les congés payés, la semaine de travail de 40 heures, renforçant ainsi le droit des travailleurs. L'instauration de la sécurité sociale en 1945 a été un tournant pour la protection sociale, permettant de généraliser l'accès aux soins médicaux et aux allocations familiales, c'est-à-dire que chacun cotisait comme il pouvait et chacun recevait les soins qu'il leur fallait, voilà. Voilà, plus récemment, la loi sur les 35 heures adoptée en 1998, qui est toujours en vigueur, illustre l'engagement de continuer de la France envers le bien-être de ses travailleurs. Voilà. Autrement dit, il faut que les travailleurs au travail aient leur bien-être, sinon on ne peut pas travailler. Aujourd'hui, les droits sociaux restent un pilier crucial du modèle social français, même s'ils font face à des défis liés à la mondialisation et à la digitalisation de l'économie. Et aux enjeux démographiques, bien sûr. L'équilibre entre l'efficacité économique et ce justice social demeure au cœur du public. Principale réforme, et j'en resterai là, les droits sociaux en France constituent donc un pilier essentiel de la société, garantissant à chaque individu une protection sociale. Dans divers domaines, ces droits influent entre autres à l'accès à la sécu. L'éducation, au logement et au travail, l'objectif est de promouvoir l'égalité, la solidarité, le bien-être de tous les êtres, de tous les citoyens, quelle que soit la situation économique ou sociale. Le développement des droits sociaux en France s'est étalé sur plusieurs siècles, c'est vrai, avec des événements clés marquant la révolution au XIXe siècle. La révolution industrielle a souligné la nécessité de légiférer pour protéger les ouvriers des conditions de travail précaires, ainsi que la première loi sur le travail a vu le jour. À l'aube du XXe siècle, des initiatives comme la création des caisses de secours marquent un tournant vers une reconnaissance institutionnelle des droits sociaux. Voilà. Au fil des décennies, plusieurs réformes ont profondément transformé le paysage social français. Voilà. Et j'en resterai là, que je vais quand même redire un petit mot sur les personnes qui sont sur la pauvreté, sur les personnes qui sont dehors, qui n'ont pas de logement, qui n'ont aucune protection sociale, qui n'ont rien du tout, et qui traînent des années. Donc sans pour eux, qu'on s'en occupe normalement, régulièrement, quoi. En fait, le défi sur la pauvreté est vraiment énorme. Et cela n'intéresse pas trop ceux qui nous dirigent. Voilà, je n'en dirai pas plus, il est 14h23, il est temps pour moi de rendre l'antenne. Merci de votre écoute, merci de la régie, et je vous dis à très bientôt.
Je me noie, je peux plus compter dessus. On se rappelle aussi qu'on s'est grave déçu. Je fais comme si dans mon cœur y'avait pas de fissure. T'es sûr qu'on s'est dit oui pour tes grandes blessures. En vrai, je veux pas tes grandes excuses. Là, j'en rallume un autre pour que les pensées fussent le soir. Je me dis que le cerveau s'use, mais que ça va pas m'aider pour les grandes blessures. Là, plus j'avance, plus je censure. Et ils me regardent comme si j'avais plus le sang pur. Pourtant, ils me parlent de plus en plus. Hôtel. Je disais que c'était la fin de l'histoire. Entre nous, c'est plus le thème. On se parle pour dire que des sadis, quoi. Lequel de nous deux se trahira? Je te mentais pas, t'étais pas là, mais tu manquais pas. Je sais pas comment on se pardonne, comment on fait croire qu'on s'adore. J'arrive pas à faire semblant.
ça suffit pas. Faut que demain les soucis pas. Plus en plus, plus, j'fume de plus en plus, plus. J't'aime et plus j'vais mal, donc j't'aime de plus en plus. Plus en plus, plus, j'fume de plus en plus, plus. J't'aime et plus j'vais mal, donc j't'aime de plus en plus. Plus en plus, plus, j'fume de plus en plus, plus. J't'aime et plus j'vais mal, donc j't'aime de plus en plus. Plus en plus, plus, j'fume de plus en plus, plus. J't'aime et plus j'vais mal, donc j't'aime de plus en plus.
Sugar.